Bonjour aux auditeurs de Radio Galaxie. Je m'appelle Barton Bullock, pianiste et compositeur. C'est notre troisième émission de musiciens classiques en Occitanie. Et nous avons le grand honneur, le grand plaisir d'inviter aujourd'hui Marie-Claude Wierczowska, pianiste de descendance polonaise, née à Toulouse. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Bart. Oui, en effet, je suis née à Toulouse, mais de père polonais. Mon père est venu à l'âge de 20 ans en France avec son frère pour faire ses études supérieures. Et comme il adorait la musique, il est allé au conservatoire de Toulouse faire du chant, un amateur. Il a rencontré maman, qui était pianiste, déjà premier prix de piano de Toulouse. Et voilà.
D'accord, d'accord. Et donc, est-ce que tu as appris le polonais très jeune avec ton père ou...
Et non, non, non. Malheureusement, mon père était d'une génération où il faut s'assimiler absolument. Donc, il voulait parler français parfaitement. Malgré qu'il avait fait le français en Pologne jusqu'au bac, il y avait quand même pas mal de difficultés. Mon père ne m'a pas du tout appris le polonais. Donc, maintenant, je reprends des cours de polonais, enfin déjà avant, puisque dans le Nord, je présidais une association culturelle franco-polonaise où j'ai dû recevoir beaucoup de polonais. Et donc je me suis dit, il faut absolument que je me mette au polonais et je suis partie de zéro.
Et est-ce que c'est à travers la présence de ton père que tu as découvert Chopin ?
Oui, c'est-à-dire surtout par les partitions de ma mère.
D'accord.
Qui malheureusement nous a quittés alors qu'on était très jeunes. Donc elle est restée un idéal pour moi. Et donc ma mère jouait déjà les préludes de Chopin, les valses. Enfin, j'ai trouvé toute une bibliothèque musicale. Et comme j'avais une grande soif de découvrir la musique, je déchiffrais beaucoup. Donc par moi-même, j'ai découvert Chopin par la lecture des partitions. Et puis plus tard, quand je suis allée jouer en Pologne, j'ai eu le grand honneur de jouer à la maison natale de Chopin, ce qui est une grande émotion pour une pianiste. Et la particularité, c'est qu'on joue à l'intérieur de la maison et que le public est dans le jardin. Donc le public ne voit pas la pianiste ou le pianiste. Ça fait comme une sorte de réincarnation de Chopin qui viendrait jouer. Et juste à la fin, on sort sur le perron de cette maison et le public applaudit. On n'applaudit pas entre les morceaux. Donc c'est tout...
Un peu comme les organistes qui sont souvent cachés, qu'on ne les voit pas. Oui, oui, oui. Et tu as découvert le piano à quel âge ?
Très jeune, toute petite, avec ta mère,
j'imagine.
Oui, 6-7 ans. Oui, il y avait les pianos de maman. Il y avait deux Érard, un Érard droit et puis un Érard à queue qui m'a suivi un moment dans mes études. Mais comme j'ai fait beaucoup, beaucoup de... Deux pianos, 5-6 heures en étant au conservatoire, je l'ai usé et après donc j'ai dû avoir un autre piano.
Mais... Et puis tu es entrée au conservatoire supérieur de Paris à quel âge ?
À 14 ans, sur les conseils de Lucette Descaves, donc on n'avait pas du tout envisagé le conservatoire, mais je voyais de temps en temps Lucette Descaves, qui est professeure au conservatoire, et que, quand elle m'a entendue, elle a dit « Cette petite, il faut qu'elle fasse au conservatoire
oui, !»
Mon
oui.
père était très honoré. Et...
Oui, parce que j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec Lucette Descaves en fin de vie, où j'allais à Boulogne.
Ah oui, elle habitait Boulogne après.
À Paris pour travailler avec elle, souvent, Debussy. Et donc c'était une des plus grandes pianistes françaises de cette époque, de grande pédagogue. Elle a aussi, je pense, elle a donné en création le troisième concerto de Prokofiev, non ?
En création, non. Mais elle a donné le concerto de Jolivet. Qu'après, il y a eu un ballet sur ce concerto. Et Lucette Descaves était dans la fosse, elle jouait la partition, il y avait un ballet sur la scène de l'opéra. Mais elle a beaucoup travaillé le troisième avec Prokofiev lui-même.
Oui.
Donc,
qu'il a composé en France, en Bretagne, si je me rappelle bien. Oui, c'est.
Un des plus beaux concertos de Prokofiev.
Oh, absolument, absolument. Donc tu as travaillé avec Marguerite Long.
Alors vraiment sur toute la fin de sa vie, que Lucette Descaves était une élève de Marguerite Long.
Oui, absolument. Donc il y a le fameux concours,
oui.
Marguerite Long. Et ensuite, donc, tu as eu ton premier prix dans la classe de Lucie Descaves et un premier prix de musique de chambre dans la classe de Fernand Aubradous. Et ensuite, ça t'a ouvert la porte vers une carrière où tu as eu le prix de la Fondation de la Vocation de France qui t'a permis de jouer à la salle Gaveau avec l'orchestre des Concerts Lamoureux où tu as interprété 3 concertos, Beethoven, Liszt et Rivier. Est-ce que tu peux nous parler de ce compositeur?
Ah oui, Jean Rivier, j'ai beaucoup aimé cet homme, qui en plus d'un compositeur, un très bon compositeur, était très très humain, il prenait les jeunes sous son aile. Et j'ai travaillé ses œuvres sous ses conseils. Il organisait des dîners, même à la maison, en invitant des jeunes pianistes, des jeunes compositeurs, et puis d'autres compositeurs chevronnés. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de dîner avec Mihalovici, qui était un des compositeurs, en somme, qui vivait à Paris, mais qui était exilé, avec d'autres, avec Tansman, avec... Vraiment, j'ai adoré cet homme. Et d'ailleurs, il a écrit quelque chose de très joli sur moi quand j'ai fait les 3 concertos. J'ai écrit ça, c'est là-dedans, je crois. Dans ce que les critiques en ont dit, je crois qu'il y a...
Tout à fait, oui. Elle n'a pas craint d'inscrire à son programme 3 concertos de styles très différents qu'elle a joués de façon magistrale. Sans le moindre doute, elle doit réaliser une brillante carrière. Donc, c'est ce qu'il a dit voilà, de ce concert en 1964.
Oui, disons que ça m'a encouragé parce que j'étais encore très jeune pianiste.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, ensuite, tu as effectué de nombreuses tournées à l'étranger, en Belgique avec la Philharmonie d'Anvers, l'Orchestre National de Belgique, les orchestres de radio francophones et flamandes, puis au Royaume-Uni, en Hollande, Luxembourg, Italie, Pologne.
Parce que j'ai vécu 15 ans en Belgique.
D'accord, d'accord.
J'ai fait aussi des CD de musique belge, une musique qui n'est pas très connue ici. Mais...
Parce qu'en plus, donc, il y a une face cachée de la carrière de Marie-Claude Wierzchowska, elle est aussi organiste. Et puis,
Depuis l'orgue, très peu.
Oui, mais enfin, ça, c'est quand même un instrument qui l'intéresse beaucoup. Mais je voudrais revenir un peu sur Chopin. Et donc, en tant que descendante polonaise, Chopin, pour toi, qu'est-ce qu'il représente
Chopin, je le sens dans tout mon corps, dans tout... Quand je joue Chopin, je vibre avec cette musique et ça m'évoque la Pologne, que je n'ai pas connue en France. Et c'est tout un monde, je suis transportée avec Chopin. Je pense à sa vie aussi, une vie quand même de souffrance. Il était exilé. Il s'est exilé volontairement au départ parce que la carrière en Pologne, ça ne suffisait pas. Il fallait venir à Paris, mais après, il n'a plus du tout l'occasion de revoir sa terre natale.
Il y a la guerre aussi, avec la Russie, donc il ne pouvait pas retourner pendant longtemps.
Oui.
Oui, tout à fait, tout à fait. En parlant de Chopin, je propose maintenant qu'on écoute un extrait. La 3e étude de Chopin, opus 10, numéro 3, qui a été surnommée, non pas par Chopin, Tristesse, donc qui est une des études les plus tendres, les plus... Donc on va écouter un extrait joué par Marie-Claude Wierzchowska. Thank you. Ensuite, en 1999, très attaché à tes origines polonaises, tu as créé à Douai l'association culturelle franco-polonaise qui a organisé un festival annuel faisant venir de nombreux artistes de Pologne. Est-ce que tu peux nous parler, en tant que directrice artistique, donc de ces souvenirs de ces musiciens qui sont venus de Pologne et du partage?
Ah oui, ça a été magnifique. Un grand moment d'échange. On a fait venir toutes sortes, disons, c'était une association. J'étais directrice artistique et présidente, mais il y avait des tas de gens autour de moi qui m'aidaient. On a fait venir toutes sortes de musiciens. Et on a même fait des expositions de peinture, de sculpture. On a fait des conférences. Pour les musiciens, on a fait souvent venir Multicamerata, qui venait de Torun. Donc c'était une formation de chambre. J'ai pu d'ailleurs jouer avec eux les concertos de Chopin, parce qu'il y a une formation... Quand Chopin jouait les concertos, il ne jouait pas avec le grand orchestre, parce qu'il faisait des concerts intimes. Donc il y a une version par Chopin du premier et du second concerto pour orchestre de chambre. Je faisais venir souvent un duo qui restait des grands amis de Tarnów, qui est le sud de la Pologne, vers Cracovie, donc piano et flûte. Et alors, ce qu'on a fait aussi, qui était très intéressant, parce que ça s'ouvrait pour les jeunes, on a créé des stages, on a amené, comme j'étais professeur au conservatoire de Douai, j'ai amené mes élèves, et même d'autres élèves, d'autres professeurs, en Pologne, pour suivre des cours avec des grands professeurs polonais. Alors, on faisait ça l'été, en dehors des cours, donc ça a été quand même un plus, je crois. Il y a eu des échanges avec une académie supérieure de Łódź, c'est Łódź en français, oui. Ça se prononce Łódź en polonais. Et assez fructueux parce qu'il y a des professeurs du conservatoire de Douai qui sont allés là-bas et des professeurs de cette académie supérieure dans de haut niveau parce qu'il y avait des élèves qui préparaient le concours international Chopin. Une école des arts qui sont venus à Douai. Vraiment, c'était dans tous les domaines. Donc, on a eu des peintres, on a eu une grande école de tapisserie, justement, qui est située à Łódź. Et les élèves sont venus à Douai. Et actuellement, il y a encore, dans la grande salle en chien, ça s'appelle, où on fait des conférences, des expositions, une œuvre d'une étudiante qui est restée exposée, que le maire a achetée.
Et est-ce que ces cours, est-ce que c'était traduit en français ou est-ce que comment ça se passait au niveau des masterclass
Alors, au niveau des masterclass, il se trouve que là, on est allé à Białystok la première fois. C'est près de la grande forêt Białowieża où il y a les bisons. Oui. Quand on achète de la vodka avec l'herbe de bison, là, c'est la grande spécialité de par là.
D'accord.
Le professeur Chmielewski parlait bien le français.
D'accord.
Donc on n'a pas eu de problème. Et après aussi, quand on l'a fait dans le sud de la Pologne, à Nowy Sącz, la dame polonaise parlait très bien le français aussi. Donc, on n'a pas eu de problème de
comme
ce
Chopin.
Côté-là.
Oui, oui, et puis en 2010, c'était le 10e anniversaire du festival qui correspondait aussi avec le bicentenaire de la naissance de Chopin. Et cette année-là, tu as donné un récital Chopin et une conférence sur les lettres de Chopin et George Sand. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de George Sand et Chopin?
Oui, alors, donc, les lettres de Chopin et George Sand, on ne peut pas dire... Le fils de George Sand, Maurice, était très, très jaloux de Chopin. Il était très couvé par sa mère. Il était peintre, d'ailleurs, élève de Delacroix. Il les a brûlées. Donc, ce qui nous reste, c'est des lettres de George Sand où elle parle de Chopin à des amis et des lettres de Chopin où il parle de George Sand à des amis. Donc, finalement, elle a été très bénéfique pour Chopin parce que elle avait une maison à Nohant, que je pense que tout le monde connaît. C'est dans le Berry, naturellement.
À côté de Châteauroux.
Voilà. Et elle faisait venir beaucoup d'artistes. Il y a eu Balzac, il y a eu Delacroix, il y a eu Liszt et Marie Dagout. Il y a eu donc et Chopin.
Alexandre Dumas.
Oui, Chopin avait la tranquillité aussi, une pièce à lui pour composer. Il a composé énormément d'œuvres très marquantes. Pendant
9 ans.
Donc il n'était pas inquiété par les choses d'intendance, parce que George Sand était une maîtresse de maison hors pair. Elle adorait recevoir, faire les confitures, faire son potager. Bon, et puis il y a eu la période où ils sont partis aux Baléares. Alors ça s'est pas très bien passé, parce que oui, Majorque, la Chartreuse de Valdemosa, mais le climat malheureusement était pas, il a plu tout le temps, comme dans ces pays-là, quand il fait beau, mais quand il se met à pleuvoir, et là ils sont très mal tombés, l'humidité a été assez néfaste pour la santé de Chopin, mais n'empêche qu'il a, comme on dit, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Il a composé des œuvres magnifiques dans cette douleur. Il a composé surtout les 24 préludes, des œuvres magnifiques, particulièrement celui de la goutte d'eau. On connaît l'histoire, parce que George Sand était parti se promener avec ses enfants, et il pleuvait beaucoup, et lui était resté à composer, et il a imaginé... qui s'était noyé, parce qu'il mettait pas mal de temps à revenir. En plus, il faisait très humide, et il y avait sûrement des gouttes d'eau qui tombaient dans cette chartreuse.
Il était dans une cellule de moines,
c'est ça, il y avait des moines. Oui. Et on entend, dans le lointain, un peu ces chants de moines, un peu lugubres.
Oui.
Et alors, cette goutte d'eau qui revient toujours, et c'est la même note qui est répétée dans ce prélude, au début à la main gauche, et après ça vient à la main droite, avec l'accompagnement assez lugubre qui... justement, décrit un peu un cortège de moines. Donc, assez marquant, ce prélude-là.
Je propose maintenant qu'on écoute une œuvre de Chopin, un scherzo, le premier scherzo en
si... Deuxième.
Ah, c'est le deuxième scherzo, pardon.
En si bémol mineur.
En si bémol mineur, donc, qui est également plein de drames. On entend bien la lutte de Chopin avec sa santé depuis un jeune âge, et puis aussi la lutte avec le destin de quitter la Pologne, d'être exilé. On va entendre tout ça dans cet extrait, deuxième scherzo de Chopin, joué par Marie-Claude Verschowska.
Thank you.
Alors que tu habitais à Douai, tu as rencontré donc Philippe Paché, un grand clarinettiste, et donc une belle histoire d'amour, et un duo qui est né de cet amour, le duo Affettuoso. Vous êtes rapprochés de Toulouse donc, depuis 2017, et nous avons eu le bonheur, enfin moi j'ai eu le bonheur de vous rencontrer et puis de vous faire jouer à Palimini, dans une très belle salle intime où Marie-Claude elle a donné un récital de Chopin, mais aussi elle a joué quelques-unes de mes pièces pour piano, notamment trois pièces qui s'intitulent « Trois Togo Fantasy ». Et puis le deuxième, c'est un peu comme dans une forme de sonate. Donc dans une forme de sonate, le deuxième mouvement est plutôt un mouvement lent. Et donc j'ai intitulé cette pièce « Canción de Amor ». Et ça a été composé pour ma mère. D'ailleurs, je l'ai fini le 6 août 2003, le jour de son anniversaire. Yeah. Et c'était vraiment émouvant. Donc ma mère était danseuse dans sa jeunesse. Okay. Bon, elle n'a jamais fait carrière, mais c'est vrai que c'est une danse lente, et puis c'est une chanson. Et donc vous allez entendre Marie-Claude Wierczorowska jouer justement dans un extrait de cette Canción d'amour, parce qu'elle dure 6 minutes en entier. Donc vous allez entendre un extrait de cette pièce. Voilà, je sais qu'aussi il y a un thème qui t'intéresse particulièrement, reconnaissance tardive de la femme compositrice du 11e au 21e siècle. C'est une conférence que tu as donnée à la Maison des Associations à Lille il y a quelques années. Pourrais-tu nous parler un petit peu de ce thème et de ce que ça veut dire pour toi ?
Donc la conférence que j'avais faite à Lille était justement à la recherche des femmes compositrices qui ont été quand même assez occultées. Quoique bizarrement, c'est dans les temps anciens qu'elles ont pu s'exprimer davantage qu'au moment du romantisme où là vraiment c'était absolument pas à leur place. Si elles, par exemple, si on prend Hildegard von Bingen,
oui.
Donc ça remonte enfin,
oui.
Tout à fait,
oui.
C'est Moyen-Âge. Et elle avait de son temps une aura incroyable, parce que enfin il faut dire qu'elle n'était pas seulement compositrice, elle était médecin, les rois venaient la consulter, elle a été abbesse d'un grand couvent. Et donc, elle a pu s'exprimer, et c'est incroyable, on a pu retrouver ses œuvres. Quand j'ai fait la conférence, oui. J'ai pu passer un extrait de ses œuvres, qui sont bien sûr des œuvres religieuses. Et il y avait aussi quelques femmes connues comme favorites de roi, qui étaient aussi, comme Agnès Sorel, je crois, qui a composé.
Oui.
Alors là, ça a été tout à fait occulté. Après, si on veut passer à la période romantique, ça a été très difficile. Parce que, par exemple, si on prend la sœur de Mendelssohn...
Voilà, Fanny.
Fanny Mendelssohn, alors qu'elle était aussi douée que son frère, son père l'a tout de suite conseillé qu'elle ne devait pas être compositrice, que ce n'était pas son rôle. Elle pouvait être pianiste, mais heureusement pour elle, elle a épousé un homme qui était pour l'art et qui n'était pas dans ce contexte social un peu réducteur. Donc, elle a pu composer, mais elle n'était pas publiée comme son frère.
On dit aussi qu'il y a certaines œuvres de Felix Mendelssohn qu'on demande, oui. Si ce n'est pas Fanny, je sais qu'elle a composé un trio. Oui. Moi, j'ai joué les deux trios de Mendelssohn, et c'est vrai qu'on dit qu'ils étaient tellement proches qu'ils étaient vraiment comme un être coupé en deux.
Ah, tout à fait, parce que Felix Mendelssohn est mort quelques mois après la mort de sa sœur.
De tristesse,
oui. Ils étaient très, très liés. Alors, il y a aussi Clara Schumann. Alors là, c'est splendide ce qu'elle a composé. J'avais joué quelques extraits de ses œuvres. Il y a des variations sur un thème de Schumann. Alors, Clara Schumann, elle a été très connue comme interprète. Elle avait le droit, mais en tant que compositrice, c'est-à-dire qu'elle a composé après elle était mariée, il y a eu les enfants, donc c'est la femme au foyer. Après la mort de Schumann, je pense qu'elle n'a plus composé d'ailleurs. Il y a eu cette amitié avec Brahms, mais elle n'a plus composé. Après, il y a eu des tas de compositrices, mais qui se mettaient un peu au banc de leur famille, comme Augusta Holmès, qui est connue pour une œuvre mineure, mais elle a composé beaucoup, comme... Melbonis, moi je me souviens, je connaissais que les heures pour enfants, avec des notes énormes. Ce que je ne connaissais, la toupie, mais alors qu'elle a composé c'est à redécouvrir. Ça qui est intéressant, quoi, c'est de redécouvrir tout ça, qu'on peut quand même avoir accès aux manuscrits et les rejouer, ça n'a pas disparu.
Ça pourrait être le sujet d'une émission ultérieure. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour les auditeurs de Radio Galaxy. Merci infiniment, Marie-Claude Wierczewska, d'être venue aujourd'hui partager ta vie musicale avec nous. Et puis, nous aurons le plaisir aussi d'inviter son mari, Philippe Paché, clarinettiste, bientôt pour une autre émission.
Merci de m'avoir invité.
Avec plaisir. Vous pouvez également écouter cette émission en podcast en allant sur radiogalaxy31.com. Pour terminer cette émission, nous allons entendre le deuxième nocturne de Chopin en mi bémol majeur joué par Marie-Claude Wierczewska.